Notre passeur va être Édouard Durand, un homme en charge de la sauvegarde des mineurs en danger. Nous le retrouvons avec Johanna Bedeau, peu avant une audience. Ce jeune magistrat interroge le droit de la famille, longtemps gouverné selon le principe de la puissance maritale et paternelle. Il n'hésite pas à citer, comme on l'entendra, Françoise Héritier, convaincue que la loi devrait être travaillée en termes de protection et non comme une sanction.
Bonjour Johanna.
Bien.
Et vous?
Ça commence à quelle heure?
Oui. Je vais aller dans le hall. C'est juste pour marcher un peu en fait.
Vous êtes stressée?
Oui.
Ah bon, voilà.
À chaque fois que je suis rentrée en audience, j'ai toujours été stressée. Même au bout de 10 ans. De...
C'est vrai?
Oui, oui. Ah, je vais dire bonjour au monsieur. Bonjour, vous allez bien?
Oui.
J'ai vu vos mails, je suis désolé, j'ai pas pu vous répondre.
D'accord. Pour tout vous dire, en fait, on n'a pas présenté l'enfant à nouveau. Et a priori, il devrait être auditionné cette semaine, mais peut-être pas, donc on attend.
D'accord.
Et pour le moment, il est en sécurité, donc...
D'accord. Tiens. D'accord.
Voilà.
Merci.
De rien.
Sur les docks, Édouard Durand. La parole du juge. Johanna Bedeau, Anna Smuk.
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que vous m'entendez convenablement?
Oui.
Par avance, je vous prie de m'excuser. Je devrais vous quitter dès la pause de la matinée. Ça me privera du petit déjeuner et de l'échange avec vous, surtout. Je crois que je pourrais commencer en vous parlant d'un enfant, d'un petit garçon ou une petite fille, je ne sais plus, âgé d'à peu près 6-8 ans et qui se rend à l'école le matin. Il est accompagné par son grand-père ou peut-être par un éducateur ou une éducatrice. Et donc il fait la route, il fait le chemin de l'école et au moment de traverser une rue, il est renversé par une automobile. Et il est donc projeté par terre. Et le conducteur de l'automobile ne s'arrête pas et poursuit sa route. Et lui, il est par terre, tout cabossé, le bras fracturé, et il saigne de la tête. Et la personne qui l'accompagne lui dit « Dépêche-toi, on va être en retard à l'école. » Alors il se lève tant bien que mal et... En boitant, il poursuit sa route et il arrive à l'école et la directrice de l'école lui dit « Tu es en retard, file en classe. » Alors, il se sépare de la personne qui l'accompagnait, il rentre dans la classe et la maîtresse lui dit « Va vite t'asseoir. » Donc, il va s'asseoir, mais bon, il souffre évidemment et il fait du bruit, il gêne ses camarades de classe parce que il saigne et qu'il ne peut pas être attentif à ce que dit la maîtresse. Il ne peut pas noter sur son petit cahier d'écolier toutes les informations que lui donne sa maîtresse d'école. Et d'ailleurs, ses camarades sont gênés par sa présence. Intrigué par son comportement, d'essayer de remettre son bras et de se toucher le crâne qui saigne. Et la journée se poursuit comme elle a commencé. Évidemment, vous avez compris que cette situation, elle sort de mon imaginaire. Et pourtant, c'est exactement ce que vivent les enfants victimes des violences conjugales. Ils vivent leur vie d'enfant et personne ne voit leur souffrance et ne prend en compte la cause de leur souffrance. Et on leur demande de se tenir tranquille sans prendre en compte l'impact traumatique des violences conjugales. Il a été démontré que l'impact des violences conjugales sur l'enfant est plus grave que l'impact traumatique de l'exposition de l'enfant à la guerre ou au terrorisme. Ce sont des chercheurs israéliens et palestiniens dirigée par Mme Miri Keren, professeure à l'Université de Tel Aviv,
n'y a pas beaucoup de choses qu'ils arrivent à faire ensemble. Il y a une chose qu'ils ont réussi à faire ensemble, c'est une étude scientifique sur l'impact des maltraitances et des faits traumatiques sur les enfants. Et leur conclusion est que l'impact traumatique des violences conjugales est plus grave pour l'enfant que l'exposition à la guerre ou au terrorisme. Vous savez que la proportion d'enfants délinquants victimes de violences conjugales est absolument considérable. Et certains professionnels qui travaillent avec les enfants les plus violents, je pense notamment au docteur Maurice Berger, que vous connaissez sans doute, hein, indiquent que dans les centres éducatifs renforcés, à peu près 70% des enfants sont des enfants victimes des violences conjugales. Voilà un bon moyen de réduire la délinquance des enfants. Éradiquons les violences conjugales. Et nous associons aliénation parentale et fausse dénonciation. De plus en plus souvent, les mères, pour gagner leur divorce, feraient semblant que l'enfant est victime d'abus sexuels chez le père. Moi, j'ai dû devenir juge.
Successivement juge aux affaires familiales à Marseille, juge des enfants à Draguignan ou à Tarascon, coordinateur de formation à l'École nationale de la magistrature, Édouard Durand a choisi pour sa rentrée 2016 de poursuivre la magistrature à Orléans, où il exercera une double fonction, celle de conseiller à la Cour d'appel et celle de secrétaire général à la Première Présidence. Malgré le changement géographique, il retrouvera chaque semaine des situations qui se ressemblent. Sa mission est avant tout la sauvegarde des mineurs en danger, définie par l'ordonnance du 23 décembre 1958. Lorsque l'on pénètre dans le bureau du juge, une tranquillité s'en dégage. Fenêtre ouverte, seuls quelques passants sur le trottoir d'en face semblent pouvoir troubler le calme. C'est dans ce cadre propice au règlement des conflits que les familles viennent s'exprimer. Ils restent convaincus que la loi devrait être travaillée en termes de protection et non comme une sanction. Lorsque Édouard Durand n'est pas en audience, il prépare une intervention à l'école de la magistrature où est appelé à témoigner de sa fonction dans un colloque sur l'enfance en danger.
Les violences conjugales et les violences faites aux femmes en général, les violences sexuées, ne sont pas une donnée de la nature. Françoise Héritier, Séminaire de la violence, publié aux éditions Edil Jacob, mais une donnée de la culture. Et vous connaissez sa phrase dans le livre « Ses yeux qui te regardent et le jour et la nuit ». Elle dit « C'est la pensée, seulement la pensée élaborée par nos ancêtres pour donner sens au réel observé qui est en cause. » Lorsqu'on examine de près les conditions de la violence sexuée, qu'elle soit publique ou privée, car de toutes les espèces animales répertoriées, il nous faut bien convenir que l'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femelles. Ce que la culture a construit, la culture peut et doit le déconstruire, à condition de nommer la violence et de ne pas appeler violence, de ne pas appeler conflit, ce qui est violence. Et puisque nous parlons d'enfants dans la tourmente des violences conjugales, eh bien imaginons un enfant dans une de mes audiences en assistance éducative. Mais je me dis, moi, que dans sa tête, il doit se dire « Mais si le juge ne dit pas à mon père que mon père n'a pas le droit d'être violent avec ma mère, c'est que mon père a le droit d'être violent. Sinon le juge le dirait, c'est son métier. » Moi, je tire les cheveux de mon camarade de classe à l'école, je suis déféré devant le juge des enfants, menotte au poignet. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que les transgressions des mineurs, on sait bien les voir et les nommer. Mais on pourrait se questionner sur ce qu'ils vivent à la maison, et nommer le réel. Ça paraît immédiat pour le juge d'instruction ou le président de la cour d'assises, mais c'est vrai pour le juge des enfants, pour le juge aux affaires familiales, pour le médecin, pour l'assistante sociale. C'est vrai pour tout professionnel. La charge sociale, c'est d'être le tiers qui nomme le réel. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, M. Durand, pour votre conférence. Il n'y aura pas de questions, puisque M. Durand doit être appelé à l'École nationale de la magistrature. Merci, madame.
À bientôt. C'est la cata, là, au niveau du temps. Une
question,
ah bon. Mais du coup, on sauve. Ouais. Au revoir. J'ai mon sac à dos bleu et mon imperméable noir, s'il vous plaît. Excuse-moi. excuse-moi de te déranger, c'est 11h ou 11h15? 11h. Du coup, je me dépêche, je serai peut-être un tout petit peu en retard.
Merci, excuse-moi, à tout de suite.
Bonjour, Edouard Durand.
Bonjour.
Enchanté. Bonjour.
Ça va?
Salut, toi.
Ça va?
Ça fait plaisir.
Bah ouais, moi aussi, quand on m'a dit que tu intervenais.
Bah ouais.
C'est rigolo.
Et oui, et tu es où là?
Bah voilà, je juge des enfants à Versailles.
Super.
Ouais, je suis contente. Super contente. Un beau poste. Après, voilà, un peu stressant, hein, forcément, chaque fois que tu changes de fonction sur un truc que t'as jamais fait.
Ouais. Les gens qui sont assis autour de cette table
sont tous des juges des enfants et qui ont pris leur fonction assez récemment. Et pour la plupart, sans doute, qui ont pris leur fonction au mois de janvier. Je sais pas où je me mets, en fait, moi.
Là-bas, ou tu es un peu loin?
Oui, bah... Je suis à l'audience pénale, avec mes assesseurs. Enfin, vous connaissez très bien l'audience du TPE. Je suis en train de prendre d'autres dossiers, et tout d'un coup, j'entends des hurlements dans la salle des pas perdus. Une agitation énorme. Moi, je suis à mon audience, mon rôle est d'être sur mon siège, je bouge pas, puis je continue à entendre, et puis je repère la voix d'un de mes mineurs, que je devais juger après devant le TPE, à peu près une quinzaine d'années. Je sors de la salle d'audience, je suspends, je sors pour voir. C'était peut-être pas tout à fait ma place, peu importe. Et je vois un enfant qui fait des bonds, comme ça, comme une balle rebondissante, dans toute la salle des pas perdus, en criant. Je me dis, juge des enfants, tu apparais, tu protèges tout le monde, tu y vas. Et je vais le voir et je me mets à lui parler. J'aurais été absent, ça aurait été exactement la même chose. Il ne me voyait pas, il ne m'entendait pas. Mise en échec d'Edouard Durand, je retourne tranquillement dans ma salle d'audience et je reprends mon dossier. Il arrive pour être jugé. Et je commence par le questionner sur cette scène-là. Et il ne voyait pas de quoi je parlais. Cette scène, elle n'existait pas dans sa conscience. Elle était dans la mémoire traumatique, elle n'était pas ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était arrivé au tribunal avec sa mère, le père est arrivé après, et le père s'est approché de la mère et a tendu la main vers le visage de la mère. Boum. Explosion. Mais il faut bien reconnaître que nous, on est saisis pour tout ça. Nous, on est saisis parce que Kevin est dans un comportement oppositionnel. On est saisi pour Mélissa parce que elle est dans le repli et la scarification. Je caricature un peu, mais pas trop quand même. Mais on n'est pas saisi pour violence conjugale.
Moi, j'ai vécu une audience extrêmement difficile. Bon, je n'entrerai pas dans le détail de l'audience, mais je reçois les parents et les enfants sur une audience qui, a priori, ne pose pas de problème, sur une demande de levée de mesures d'assistance éducative, avec, en tout cas, ce qu'on m'écrit dans le rapport, un consentement des parents à la levée de cette mesure, en me disant que, bon, voilà, les enfants évoluent favorablement, que les parents sont séparés, qu'il y a eu un conflit parental à un moment, mais que maintenant, tout va bien. Bon. Je reçois donc tout le monde en même temps. Je commence mon audience. Et je sens très très vite une très grande violence et une très grande tension dans l'audience. Vraiment quelque chose d'extrêmement palpable. Et j'essaye de comprendre d'où vient cette violence et cette tension. Je m'adresse à la mère qui me répond par monosyllabes, mais vraiment complètement par monosyllabes, en regardant ses pieds. Et j'ai interprété ce positionnement de la mère comme un refus de cette ingérence que peut représenter le juge des enfants dans la famille. Bon, donc je poursuis l'audience en essayant de trouver, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et je me dis, bah oui, effectivement, c'était un peu évoqué dans le rapport, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que la mesure est trop lourde pour la famille, elle la supporte plus, elle supporte plus cette ingérence. Et j'interprète cette difficulté comme ça. Et au moment de clôturer mon audience, je donne la parole aux parents. Je m'aperçois d'ailleurs que je donne beaucoup plus la parole au père, puisque lui est beaucoup plus dans le dialogue que la mère. Donc je m'appuie en fait dans mon audience sur le père. Et au moment quand même de clôturer mon audience, je refais un tour de table et je dis donc au père, donc monsieur, vous désirez bien la levée de cette mesure? Oui. Madame, donc, c'est ce qu'on a parlé, vous désirez également la levée de cette mesure. Et là, la mère me regarde et malgré ce qu'elle avait pu dire avant, elle était incapable de dire « oui, je désire la levée de cette mesure ». Elle s'est levée, elle s'est mise à hurler, à frapper sa tête contre les murs, devant les enfants, une situation très compliquée, et à se plier en deux et à se balancer. Bon. Là, je lève l'audience, en tout cas, je fais sortir le père et les enfants. J'essaye de récupérer, dans tous les sens du terme, la mère. Et là, effectivement, elle dénonce des faits de violence extrêmement importants. Et ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c'est que j'ai mesuré là toute la violence de l'audience pour elle, la violence que je lui avais imposée, clairement, et la difficulté pour elle de se retrouver. Et effectivement, on a pu discuter après. Elle m'a dit que c'était pas la mesure éducative qui posait problème, que je n'ai d'ailleurs évidemment pas levé au final, c'est un autre débat. Mais ça, ce qui lui avait été insupportable en fait, c'est d'avoir été dans cette salle, confinée, en présence de cet homme. Et elle disait, moi la mesure, j'en ai besoin et je la veux et ça m'aide et mes enfants, je les élève et voilà. En revanche, si vous me dites qu'on doit être reconvoqué dans un an et que je dois resubir cette audience et être de nouveau confrontée au père de mes enfants, je ne veux plus de cette mesure. Et alors là, il a fallu lui expliquer qu'on pouvait convoquer à des moments différents, etc. Mais ça a été très compliqué pour moi de reprendre l'audience et encore une fois d'accepter cette violence que je lui avais imposée et ce que je n'avais pas du tout vu venir, ce que les services éducatifs non plus n'avaient pas vu venir, mais quelque chose qui a complètement explosé à l'audience.
Tous les voyageurs, descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
Merci. Merci, monsieur. Allez-y, s'il vous plaît, madame. Merci.
Vous avez toujours votre sac à dos?
Toujours mon sac à dos.
Le train.
Tout le temps. Et peut-être regarder encore un peu les dossiers de cet après-midi. Le palais de justice d'Orléans, c'est à la fois la cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le conseil de prud'homme. Et donc c'est une juridiction, c'est un palais où toutes les juridictions d'Orléans sont réunies. Et là, on va rentrer à la première présidence. Voilà, donc à la première présidence, nous sommes quatre. Le premier président de la cour d'appel, monsieur Coudert et madame Chevreau au secrétariat, et moi au secrétariat général.
Enchanté.
Et voilà mon bureau, oui. C'est un beau bureau. On voit que ce sont des bureaux qui sont anciens. Ce qui est magnifique, c'est tous ces livres, avec de vieux recueils de droits. Il y a mon préféré qui est là, mais je le retrouve pas. un traité du divorce de monsieur Aîné, 1792. Et j'en ai ajouté quelques autres beaucoup plus récents, comme vous le voyez, multicolores. Je me permets, c'est un peu présomptueux, mais juste de lire un petit passage d'Emmanuel Lévinas, Éthique et infinie. Philippe Nemo lui pose la question « Comment commence-t-on à penser ?» Par des questions qu'on se pose à soi-même et de soi-même, à la suite d'événements originels, ou par les pensées et les œuvres avec lesquelles on entre d'abord en contact. Et Lévinas répond « Cela commence probablement par des traumatismes ou des tâtonnements auxquels on ne sait même pas donner une forme verbale. Une séparation, une scène de violence, une brusque conscience de la monotonie du temps. » Et puis, il continue, et c'est la lecture qui permet de continuer dans la pensée. Et à la question « Pourquoi doit-on s'intéresser aux violences conjugales ?» je réponds « Ce qu'il faut, c'est penser. » Et Charles Péguy, lui, il dit « Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. » Et il me semble que on a du mal et que l'institution judiciaire a encore du mal, mais beaucoup de choses avancent à voir ce que l'on voit, ce que sont ces violences dans l'intimité familiale. Donc cet après-midi, c'est une audience de la Chambre des mineurs, Chambre spéciale des mineurs, statuant en assistance éducative.
Pardon ? Moi non plus, je ne vous aime pas, parce que je viens de trouver un petit mot.
Et les dossiers qui sont évoqués, ce sont des dossiers qui viennent des juges des enfants, du ressort de la cour d'appel, c'est-à-dire Orléans, Montargis, Tours et Blois, et qui essentiellement sont des situations d'enfants qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance, ou bien qui bénéficient d'une mesure éducative tout en restant au domicile familial.
Quand on regarde donc ce dossier-là, ce dossier rose, cet enfant, son histoire juridique a commencé à quel moment, en quelle année ?
Oui, c'est une situation qui est assez récente. Il y a parfois des dossiers dont la Cour est saisie et qui sont très très anciens. Parfois certains dossiers que la Cour connaît déjà, puisque les parents ont déjà fait appel de certaines décisions et ils le font à nouveau. Et là, c'est un dossier qui est un dossier de 2014. Alors là, on a un dossier qui est un petit peu plus ancien, et puis qui est un peu plus gros. Et puis il y a des dossiers qui vont concerner un seul enfant ou bien une fratrie entière. Les dossiers, je les ai déjà étudiés avant l'audience, il y a plusieurs jours. Et je voudrais vérifier certaines pièces, notamment je vois des rapports qui sont transmis très récemment. Et puis,
des rapports éducatifs ?
Des rapports éducatifs, soit du service d'AEMO, soit du service de l'aide sociale à l'enfance, du conseil départemental.
AEMO ?
AEMO, ça veut dire action éducative en milieu ouvert. Puisque en assistance éducative, il y a quatre grands principes. Et le premier de ces principes, qui est la clé de voûte de la protection de l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. Et le code civil précise que le juge des enfants doit toujours se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Un autre grand principe est celui du maintien de l'enfant dans son milieu actuel familial.
C'est-à-dire
que,
le plus possible.
Oui, le code civil précise que chaque fois que c'est possible, l'enfant doit être maintenu dans son milieu familial. Mais il est parfois nécessaire de confier des enfants à des tiers, à des membres de la famille, à des institutions de protection de l'enfance, pour garantir leur protection. Et c'est le juge des enfants qui est le gardien de cette frontière entre la liberté fondamentale de vivre en famille et l'impératif de protéger les enfants en danger.
Oui, oui, les doigts gauche. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Alors, l'audience commence avec un premier dossier. Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Durand.
Quentin a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 16 décembre 2014. Au vu de plusieurs motifs qui étaient contenus dans les rapports éducatifs et dans la décision du juge des enfants, il était évoqué des violences conjugales de monsieur contre sa femme et également des violences de monsieur contre Quentin. Il apparaît aussi, au vu du dossier, que Quentin est un enfant en grande difficulté. D'abord sur le plan de sa santé, puisqu'il présente un surpoids préoccupant, et de son comportement. C'est un enfant qui fait preuve de violence, de difficultés de concentration et de difficultés dans les apprentissages. Il est décrit par ses parents, selon leurs mots, comme ingérable. Et l'ASE constate que le placement lui permet d'être plus soigné et plus propre. On note cependant la persistance de problèmes d'agressivité, notamment contre les autres enfants, notamment dans la famille d'accueil. Malgré son intelligence, sa scolarité est chaotique et il conserve une propension à la violence à l'école et une demande de prise en charge dans le cadre d'un CESAD est en cours d'instruction. Sur le plan de sa santé et notamment du surpoids,
il a bien maigri. Il a reperdu tout d'un seul coup. Depuis qu'il a la famille d'accueil, il l'a reperdu. Il n'est plus en surpoids. Moi, je le trouve mieux. Avant, oui, il était bien gros. Là, il est mieux. Là. Il se sent mieux, il arrive mieux à courir.
Il était noté dans les rapports éducatifs que les professionnels, mais aussi la famille et vous-même, pouviez dire « Quentin, il est ingérable ». Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ça?
J'avais du mal à m'occuper de lui parce qu'il n'arrêtait pas de taper et tout. Mais là, je l'ai eu ce week-end, ça s'est passé bien. Ça serait bien passé. Bon, il y a des petites chamailles avec son frère, c'est des frères. Mais il s'est calmé au niveau des chamailles.
Depuis quand?
Moi, c'est le deuxième week-end que je l'ai en hébergement. Donc. À Noël, ils ne se sont pas battus. Là, ils ont essayé de se battre. J'ai dit stop. Ils ont été chacun dans leur coin. Mais c'est toujours avec son frère, par contre.
Ils ont un an d'écart.
Oui. Mais c'est des frères.
À l'école, on parle d'une scolarité chaotique. Il a des résultats qui ne correspondent pas à son intelligence. Ça vous dit quoi, ça?
Je ne sais pas, il faut lui demander. En même temps, il doit être suivi par un psychologue au niveau de l'ASE. Nous, on n'a pas tous les rapports des psychologues. Moi, je n'ai pas pu aller à la réunion de l'école, mais j'ai eu le rapport, j'ai vu ce qui a été marqué. Mais moi, je n'ai pas, j'ai pas le rapport du psychologue ni rien, c'est l'ASE ça, qui ont les rapports. Moi, après, je ne sais pas ce que le psychologue en dit. Moi, je sais qu'il était suivi par le CMP quand je l'avais.
Dans le dossier, on parle aussi de violence conjugale.
Mais je suis plus avec le papa. Il n'y a plus de violence conjugale.
Donc vous vivez avec un autre homme?
Oui.
Vous avez un enfant?
Oui. J'en ai pas qu'un, j'en ai sept.
Avec ce monsieur?
Non.
Non. Est-ce que vous souhaitez dire autre chose, madame?
Non, c'est tout. Que mon fils il sorte du placement, c'est tout ce que je veux.
Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que vous en avez parlé avec votre compagnon actuel?
Oui.
Du retour de Quentin?
Oui.
Vous pouvez nous dire ce qu'il en pense?
Il a dit c'est mon enfant, donc tout ce que je veux, c'est ce qu'il veut, donc voilà.
Donc il est d'accord sur le principe?
Bah oui, j'en ai déjà trois avec moi, donc un de plus ou un de moins.
D'accord.
D'autres questions? Merci, madame.
Merci.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez entendu le résumé que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que c'est un résumé qui vous paraît correspondre à votre expérience familiale?
Oui et non.
Expliquez-vous.
Bon, par rapport à Quentin, sur gratuité d'un caractère. Par rapport à Quentin, entre moi et Quentin, on a un caractère assez fort tous les deux. Ça, par rapport à la violence, j'ai toujours reconnu.
Il y a eu des violences conjugales.
Oui, ça, je l'ai reconnu devant le juge, je l'ai reconnu. Aussi bien connu au niveau de mon ex-femme, au niveau de mes enfants, ça, j'ai toujours reconnu. Et je le cacherai jamais, puis ça, je l'ai toujours dit. J'ai jamais nié les faits.
Alors, je dois vous dire que la violence conjugale, c'est un traumatisme extrêmement grave pour les enfants.
Oui, je sais.
Ça les perturbe beaucoup.
Je sais.
Il va falloir que les médecins et les services éducatifs aident les enfants à surmonter ces traumatismes-là.
Je sais. Moi, de mon côté, c'est pareil. J'ai fait une demande de psychologue et psychiatre. J'attends les réponses.
La décision sera rendue le 1er avril 2016 par remise au greffe. Vous la recevrez par la poste.
Parfois, vous vous dites que vous vous trompez ou pas? Comment on sait qu'on ne se trompe pas?
Bah ça, c'est une question qui est philosophique et que je crois que je me suis souvent posé cette question, tout spécialement quand j'étais juge des enfants. C'est la question de l'erreur judiciaire et souvent je me suis dit que mes erreurs judiciaires qui m'inquiétaient le plus ou qui me culpabilisaient le plus, c'est celles que j'ai commises sans même le savoir. Et parfois, peut-être avec bonne conscience.
Ouais. Asseyez-vous. Vous serez mieux. Je vous ferai venir tout à l'heure, mais mettez-vous sur les fauteuils qui sont là. S'agissant de l'historique de la situation familiale et des conditions de vie de Manuela, il ressort du dossier que le 20 décembre 2012, Manuela avait alors 7 ans, le conseiller d'insertion et de probation en charge du suivi de la mise à l'épreuve de Madame signale au procureur de la République la situation de Manuela. La mère ayant indiqué lors de l'entretien avoir conduit sa fille aux urgences médicales le 13 décembre 2012 pour une déchirure de l'hymen qui aurait eu lieu dans le cadre de jeux à l'école. Le chef du service pénitentiaire indiquera au conseiller d'insertion et de probation du service pédiatrique, que les parents de Manuela ont amené leur fille à l'hôpital le 29 novembre et non pas le 13 décembre, et que la consultation gynécologique mettait en évidence une lésion traumatique. Une information préoccupante du 12 janvier 2015 émanant du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui faisait état des difficultés éducatives des parents. Les médecins parlent d'une escalade punitive corporelle sans possibilité de contenir les débordements de l'enfant, et de l'excitation de Manuela avec des mises en scène explicites de maltraitance psychique, physique et sexuelle. Au travers des jeux, mais les psychiatres excluent le mot de jeu, des mises en scène avec les poupées, des mises en scène sexualisées ou des mises en scène sadiques, correspondant, je cite le rapport, à une effraction au niveau psychique pouvant évoquer un vécu peut-être bien réel. Madame, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Alors, que pensez-vous du résumé que je viens de faire?
On ne peut rien faire de...
On encaisse.
On encaisse les coups qui nous tombent dessus.
Vous savez, madame, personne n'a le droit de vous donner des coups. C'est interdit par la loi.
Oui, mais... Je sais.
Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, ce sont des enfants. Et que il y a pour un peuple un devoir moral de donner leur place aux enfants et de les considérer comme des enfants. Et que le processus même de l'éducation, qui est l'autonomisation
et le fait de devenir un citoyen suppose de respecter le temps de l'enfance.
Comment vous vous sentez alors, vous, après une journée comme aujourd'hui ?
Bah, je trouvais que c'était une audience grave, avec des dossiers difficiles, et donc qui me font réfléchir encore. Je crois que je peux dire que je me sens moins stressé ou moins envahi que dans des situations que j'ai connues comme juge des enfants à statuer seul. Et puis, je reconnais aussi que j'ai une satisfaction à aller en audience, parce que ça me passionne. Donc j'y trouve beaucoup d'intérêt.
Il est 18h, il n'y a plus personne dans le tribunal ?
Oh si, sûrement. Je pense que c'est assez plutôt calme. Et puis ici, on est dans un côté du palais de justice qui est plus calme que d'autres. Mais il y a des audiences qui continuent. Et puis les magistrats, les greffiers qui sont dans leur bureau à rédiger des jugements et des arrêts. Là, on a délibéré là parce que l'audience est terminée un petit peu plus tôt. Et c'est surtout moi le vendredi soir quand l'audience se termine à 7h, je file. Je mets mon sac à dos et je cours. La gare est tout près du palais de justice, c'est très pratique. Et je peux filer quelques minutes avant mon train.
Et donc là, vous prenez quoi comme métro pour aller chez vous ?
Là, on prend la ligne 5. Et jusqu'à République, après, on va à pied. Régulièrement, je retourne à Paris pour travailler en semaine, comme demain. C'est un bon système d'avoir gardé mon appartement à Paris.
Donc vous arrivez toujours le soir et en général vous passez la journée du lendemain à Paris pour votre intervention, voilà. Et vous repartez le soir.
Voilà, c'est ça.
Bon, quelles sont les chambres qu'on peut visiter là, qui sont un peu plus correctes? Ibrahim, la tienne. On peut la visiter ? Oui ? Bon.
Alors, vous êtes deux dans cette chambre ?
Oui,
ou...
oui, c'est ça.
Oui.
Ah ouais. Donc, vous voyez, il y a de la bonne ambiance et de la bonne ambiance. C'est fermé, tu peux nous ouvrir, s'il te plaît ? On voulait rigoler avec vous. Hein ? Bonjour. Voilà.
On vous dérange, là.
Je vous présente Monsieur Édouard Durand.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Ladji.
Enchanté.
Bonjour.
Adrien.
Bonjour.
Enchanté.
Adrien vient d'arriver il y a très peu de temps. Hein ? Il est là depuis une semaine maintenant.
Oui, lundi dernier, ça fait 10 ans.
Voilà. Ladji, c'est un ancien de la maison.
Ça fait 2 ans en fait.
Voilà.
Hein ? Et comment ça se passe ?
Ça va. Au début j'étais un peu dissipée et je me suis calmée.
Oui, c'est vrai. Je faut reconnaître que...
Mais je continue à être en retard un peu.
Ouais, ça, c'est pas bien à l'école, effectivement. Ouais. Les retards sont nombreux et multiples. Ouais. Alors, corrigez ça. On voit une chambre individuelle, c'est celle d'Adrien. Mmh. Voilà. Donc, qui est seule, et Adji est la chambre juste à côté. Mmh. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils passent du moment ensemble.
À on vous laisse.
On va vous laisser rigoler. N'oubliez pas forcément de voir quand même.
Ah oui, oui. Oui.
voilà. Saint-Piternel, salle de télévision qui sert aussi d'autres activités. Ce qui est remarquable, c'est que c'est les jeunes qui l'ont décoré. On a récupéré des palettes, ils les ont peints, on a acheté de la mousse. Ils ont couvert la mousse, ils ont fait les coussins. Voilà, donc c'est un lieu qu'on leur a demandé d'aménager pour qu'il soit plus respectueux.
Vous vous appelez Dylan, c'est ça?
Oui.
Moi, je m'appelle Édouard Durand. Et je viens visiter le foyer Robert Levillain. On a visité un petit peu, on a pu visiter les chambres. Vous vous êtes à quel étage?
Au deuxième étage.
Vous êtes dans une chambre tout seul ou vous êtes deux?
Je suis... on est deux.
Avec qui vous êtes?
Un jeune garçon. Il s'appelle Ibrahim.
Ça se passe bien?
Oui.
Vous avez goûté? C'est le deuxième goûter, là, ou c'est le premier goûter? Vous avez le droit au beignet, déjà.
C'est mon premier parce que j'ai eu un rendez-vous avec la psychologue juste avant.
Oui, ça se passe bien. Ici, vous êtes content?
Oui.
Il y a des activités sportives qui sont organisées par l'équipe régulièrement, je ne sais pas, ou le mercredi. Un mercredi comme ça, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire, Dylan?
Demain? Je rentre de l'école à midi. Et ensuite, de midi 45 à 14h15, j'ai une activité BD à Ballard. Et juste après, de 14h30 à Savary, la fin de la deuxième activité. Parce que des fois, il y a des sorties. Mais généralement, ça finit à vers 17h ou 18h. C'est avec une association de bénévoles qui s'appelle l'École du Commerce. On sort par exemple à la patinoire. On a fait une sortie à la piscine aussi.
Ça vous plaît? Vous aimez ça? Ça ne se fait pas de déranger des élèves studieux, mais je viens dire au revoir quand même.
Non, il n'y a aucun arrangement. Aucun arrangement.
Un peu.
Au revoir, monsieur. Au
revoir. Vous imaginez, vous, placer un jeune ici?
Ah oui, j'imagine placer un jeune ici, oui. Parce que le lieu est beau et soigné. Et on sent une équipe éducative solide et bienveillante.
Oui, ça a l'air.
Et je trouve que c'est perceptible quand on rencontre ces enfants.
Vous nous faites visiter?
D'accord, moi c'est un petit appartement parisien. Et c'est le séjour.
Vous avez visité depuis combien de temps?
Depuis janvier 2014, quand je suis parti de Bordeaux pour venir à l'école à Paris.
Vous faites du piano?
Extrêmement mal. C'est une catastrophe. Il faudrait que je trouve un moyen de le cacher pour que personne ne le voie. Mais j'aime bien ça.
On s'installe où? Ici? Quelle place a eu la justice chez vous? Le droit et la justice.
Le droit est... La justice, c'est un idéal, donc c'est la place de l'absolu auquel on n'est pas encore parvenu, évidemment. Mais le droit et le monde judiciaire, c'est une place qui est ancienne dans ma vie, parce que mes parents sont juristes tous les deux, mon père était avocat, et J'ai grandi dans le monde judiciaire. Je suis allé écouter mon père plaider quand j'étais enfant. Ce sont des discussions juridiques que j'entendais à la maison, chez mon père ou chez ma mère. C'est un univers qui m'est familier. C'est une des grandes fiertés de ma vie d'avoir entendu mon père plaider. T'es un avocat, un immense avocat.
Édouard Durand, comment ça commence pour vous ? Vous décidez donc de passer la magistrature, vous obtenez le concours. Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Vous vous en souvenez ? C'était il y a combien de temps ?
C'était en 2001, début 2001, la réception au concours. Et après avoir été reçu au concours, j'ai fait mon service militaire. C'était une des dernières années où on pouvait faire son service militaire.
Vous vouliez le faire ?
Bah oui. C'est un service qu'on doit rendre.
Juge des enfants, juge aux affaires familiales, qu'est-ce que ça vous évoquait, vous, à cette époque, quand vous étiez beaucoup plus jeune ? Enfin, vous avez 40 ans, mais quand vous étiez très jeune.
J'avais l'idée claire que ce serait un moyen pour moi d'être avec mes semblables dans des moments importants de leur vie. Ce qui est, à m'entendre le dire, ce qui est extrêmement présomptueux d'ailleurs. Je me représentais moins la protection de l'enfance, moins les enfants en danger, les enfants maltraités, moins les enfants délinquants aussi, les enfants violents. C'est petit à petit que j'ai compris que cette fonction de juge des enfants m'amènerait là. C'est l'objet même de cette fonction-là, de protéger les enfants en danger. Et parmi eux, pour parler comme le général de Gaulle et l'ordonnance de 1945, et parmi eux les enfants délinquants. Comme une des catégories d'enfants en danger d'ailleurs. Je me souviens d'un enfant que j'ai mis en prison dans une procédure très particulière qui fait que c'est le juge des enfants lui-même qui prononce le mandat de dépôt. Et la première fois où j'ai signé moi-même le mandat de dépôt, je me souviens que sa mère, en sortant de mon bureau, m'a dit « Oh, mais c'était un adolescent violent, un enfant violent, et qui avait déjà un casier judiciaire. » Et au moment de sortir de mon bureau, je me souviens que sa mère m'a dit « Ah mais je le sens pas là, c'est pas comme d'habitude, je le sens pas. » Et puis il est allé en prison et il s'est pendu. Un enfant, c'est un enfant. Et il est pas mort. Grâce à Dieu, il est pas mort. Au moment de mourir, il a tenté de se pendre et au moment de mourir, il s'est uriné sur lui. Et ça l'a réveillé et secoué et il s'est dépendu. Alors évidemment, c'est très marquant pour un jeune juge. C'était dans ma première année. Et puis ça m'arrivait par la suite de prononcer à nouveau des peines d'emprisonnement, à nouveau de mettre des enfants en prison. Et on ne devient pas juge si on ne peut pas assumer ça.
Comment vous vous protégez, vous ?
Je crois que j'essaye de faire mon travail le mieux possible et de respecter la procédure. Et la procédure est une protection, et y compris une protection du juge. Parfois, sur les violences, par exemple, sur les violences familiales, les violences faites aux enfants ou les violences conjugales, parfois, je sens que des gens sont un peu heurtés et ils me reprochent, ils me critiquent en disant... en me disant vous faites la morale, vous êtes dans un registre qui est du registre de la morale, mais je pense qu'on est toujours dans un registre qui est un registre de la morale,
c'est-à-dire appliquer la loi, ce serait faire appliquer la loi, ce serait être dans la morale.
Évidemment, c'est un choix professionnel et c'est un métier comme un autre. Mais les conséquences sont tellement importantes pour les autres que, au bout du compte, ça dira bien quelque chose de ma valeur morale. C'est-à-dire que je pense que, au jour du jugement dernier, le jugement qui sera porté sur moi, ça pourrait être la somme de toutes les décisions que j'aurais rendues comme juge, et qui diront quelque chose d'une valeur morale.
Vous l'aviez imaginé comme ça, votre vie, Édouard Durand ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis je ne sais pas ce qu'elle va être. Mais je n'avais pas imaginé ça.
Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Avec Édouard Durand, magistrat. Les juges des enfants en formation à l'ENM, Ibrahim, Dylan, l'équipe du foyer Robert Levillain, les mineurs et leurs familles. Merci à Marina Georgiades et au ministère de la Justice, le groupe SOS, le Centre de victimologie pour mineurs et l'espace REUI, la Cour d'appel d'Orléans. Coordination Irène Emelianenko, attachée de production Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son Laurent Macchietti, Laurent Lucas, Yann Fressy et Bernard Cantat. Mixage Delphine Baudet. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.